Mardi politique, en partenariat avec Libération et France 24.
Véronique Rigolet.
Bonjour à tous, bienvenue dans Mardi politique. C'est la députée européenne UMP Michèle Alliot-Marie qui nous accompagne ce soir sur RFI. Ancienne garde des Sceaux, ancienne ministre de la Défense, des Affaires étrangères et de l'Intérieur. Quatre ministères régaliens, pas moins. Bonsoir Michèle Alliot-Marie.
Bonsoir.
Pour vous interroger à mes côtés, Roselyne Fèvre de France 24 et Alain Auffray de Libération. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Bonsoir.
15 jours après les attentats, une semaine après les grandes marches républicaines, plus rien ne sera comme avant, promet le président Hollande, qui annoncera demain, eh bien, toute une nouvelle série de mesures pour lutter contre le terrorisme et qui, au passage, bondit, s'envole dans les sondages, plus 21 points pour François Hollande, du jamais vu. Ça vous surprend, c'est mérité, Michèle Alliot-Marie, sa gestion de la crise a été bonne?
Écoutez, me surprendre, non. Je pense que quand il y a des événements de ce type qui ont profondément marqué les Français, qu'il les amène à rechercher davantage la cohésion, que, notamment entre les responsables politiques, que la division, il y a un élan de ce type. Et par ailleurs, le président de la République, comme le Premier ministre, comme le ministre de l'Intérieur, ont été dans leur rôle qu'attendaient les Français.
Alors, le défi est clairement maintenant dans l'action pour les politiques, avec sans doute l'urgence d'apporter des réponses aux problèmes d'intégration ou de citoyenneté après les attentats commis, on le rappelle, par de jeunes Français nés à Paris. Et pour le Premier ministre Manuel Valls, en tout cas, le constat est clair. Il existe en France, dit-il, un apartheid territorial, social et ethnique.
Ces derniers jours, on soulignait beaucoup des maux qui rongent notre pays ou des défis que nous avons à relever. Et à cela, il faut ajouter toutes les fractures, les tensions qui couvent depuis trop longtemps et dont on parle uniquement par intermittence. Et après, on oublie, c'est ainsi, les émeutes de 2005, qui aujourd'hui s'en rappellent. Et pourtant, stigmates sont toujours présentes. La relégation périurbaine, les ghettos, ce que j'évoquais en 2005 déjà, un apartheid territorial, social, ethnique qui s'est imposé à notre pays.
Michèle Alliot-Marie, on vient d'entendre le Premier ministre. Il y a vraiment un problème d'apartheid en France. Les mots sont forts, hein.
Les mots sont forts, sont des mots de l'émotion, mais il est certain qu'il y a un problème de cohésion dans notre pays, de cohésion sociale, de cohésion idéologique d'ailleurs peut-être, encore que la grande manifestation de dimanche dernier a montré combien la grande majorité, l'immense majorité des Français se reconnaissaient dans les mêmes valeurs. Ceci dit, nous avons vu aussi depuis dans certaines écoles sur des réseaux sociaux en particulier, qu'il pouvait y avoir effectivement un problème de cohésion sociale. À partir du moment où on veut essayer d'avoir une France qui soit forte parce qu'elle est unie, il est évident que l'on doit se préoccuper de cette cohésion sociale.
Vous auriez utilisé le mot d'apartheid ?
Sans doute pas, mais ça n'a aucune espèce d'importance. Je dirais que chacun utilise son propre vocabulaire. En tous les cas, je pense que sur le diagnostic, il y a sans doute un grand nombre de personnes à partager la même analyse, même si les réponses à apporter ne sont pas forcément exactement les mêmes pour les uns et les autres.
Alors, c'est vrai que le mot apartheid est fort, c'est le mot qu'il a choisi en tout cas. Qui a créé les conditions, d'après vous, de cet apartheid? Y a-t-il une double responsabilité, celle de la République qui s'est peut-être désintéressée de ces quartiers, ou ceux qui se sont éloigné d'elle, de la République, en ne respectant pas ses principes? Est-ce qu'il y a une double responsabilité? Qui a créé cette...
Je pense qu'il y a de multiples responsabilités. Autant il faut regarder quelles sont les causes, autant la recherche de responsabilité, bon, est sans doute intéressante pour des journalistes, pour des spécialistes de sciences politiques,
voire des politiques.
Mais ce qui est important, effectivement, c'est d'essayer de voir les causes et qu'est-ce que l'on peut en faire. Il est vrai qu'il y a, parmi ces causes, des causes qui sont d'ordre socio-économique. Vous avez également des causes qui sont de nature culturelle. On peut dire qu'il y a une fracture entre des gens qui ont de plus en plus de difficultés et quand comme moi, on est sur le terrain, puisque je suis élue malgré tout dans le Grand Sud-Ouest, c'est un cinquième de la France. Alors, ce ne sont peut-être pas les très grandes villes comme Paris et Bordeaux, mais ça permet de voir qu'il y a une très forte angoisse chez des gens qui ne savent pas comment ils vont finir le mois. Il y a une inquiétude sur son propre avenir. C'est une des raisons. Ça n'est pas la seule raison. Il est évident qu'il y a aussi, et à toute génération, le sentiment qu'on est dans un monde qui bouge beaucoup et où finalement les valeurs qui ont créé l'identité d'un grand nombre de Français leur paraissent totalement mises en cause. Et vous avez aussi une partie des Français qui ne savent plus à quelles valeurs et à quels principes se rattacher. Il est évident qu'aujourd'hui, la mondialisation et finalement les nouvelles technologies de la communication sont en train de montrer leur plein effet, dont on n'a probablement pas mesuré l'impact il y a quelques années. Quand sur des réseaux sociaux et d'ailleurs sur Internet, vous avez à la fois la vision de sociétés qui sont très différentes de nous, quand vous avez des propos qui sont tenus, qui sont parfois des propos haineux ou des propos mensongers, mais les gens ne savent plus à quoi se raccrocher. Et c'est l'un des problèmes de l'école, et c'est la raison pour laquelle vous voyez tous les politiques s'intéresser à l'école aujourd'hui, parce que l'école est théoriquement là pour donner des repères, pour permettre d'avoir une grille de lecture, en quelque sorte, de toutes ces informations qui arrivent comme ça. La question est de savoir si l'école a aujourd'hui réellement les moyens de faire face à cette mission.
Alain Onfray.
Manuel Valls tout à l'heure évoquait 2005 et les émeutes. Vous étiez aux affaires à cette époque-là, et avec naturellement moins de force qu'aujourd'hui, mais enfin de manière assez dramatique déjà à l'époque, s'est posé la question de la ghettoisation, de la relégation, de la manière de créer un peu de cohésion sociale, etc. Est-ce que, ça fait 10 ans donc, est-ce que à l'époque, on est passé à côté du sujet? Est-ce que vous avez l'impression que des choses ont été faites qui auraient permis d'améliorer? Parce que le constat, c'est plutôt celui d'une détérioration, alors que le constat a été fait il y a 10 ans, voire plus même.
Le constat a été fait il y a beaucoup plus de 10 ans. Souvenez-vous de la fracture sociale qui était un des thèmes de Jacques Chirac. Et ce sont des thèmes que l'on a trouvés encore bien auparavant, que l'on retrouve d'ailleurs dans l'idée gaulliste de dire il faut réunir les gens. L'idée de la participation, c'est aussi celle-là. C'est de dire chacun doit se sentir valorisé. Mais ce qui s'est rajouté probablement par rapport à 2005, je ne dis pas que on a répondu à toutes les attentes de 2005, mais en plus, comme je vous le disais, depuis 2005, nous avons ces nouveaux défis qui frappent à notre porte et dont nous n'avons pas mesuré exactement ce que serait l'impact et qui ont certainement aggravé la situation. Pas simplement en France, d'ailleurs, parce que, regardez, pour l'instant, nous avons parfois une vision très franco-française, mais des actes terroristes, des attentats, vous en avez eu aussi en Grande-Bretagne, et notamment les derniers attentats en Grande-Bretagne, qui devait être en 2007 ou 2008, quelque chose comme ça, était le fait de personnes qui non seulement avaient la nationalité britannique, mais en plus qui apparaissaient comme des gens très intégrés. Vous aviez des ingénieurs, vous aviez des médecins. C'est donc une problématique beaucoup plus globale et que nous ne pouvons certainement aborder que d'une façon général pour notre société, mais en même temps international.
C'est de cette époque d'ailleurs, en 2005, que remontent les premières propositions sur la restauration d'un service, alors non pas national, mais civique, qui a finalement été mis en place sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, qui reste encore 40 000 jeunes concernés, donc ça reste encore assez marginal. On voit monter dans votre famille politique des appels à la restauration d'un service national, carrément. Qu'est-ce que vous dites de ça?
Alors, je dis d'abord, s'il s'agit d'un service militaire, ça n'est pas quelque chose de sérieux. Pourquoi est-ce que le service militaire a été supprimé? Parce que dans les défis du monde actuel, et qui se sont encore aggravés au cours de ces derniers temps avec Daesh, avec ACMI et avec Al-Qaïda, nous avons besoin d'une armée professionnelle. Et il faut bien voir qu'autrefois, quand il y avait encore le service national, la plupart de nos militaires, ou un nombre important de nos militaires, servaient essentiellement à l'encadrement de jeunes qu'il n'était pas question question que d'envoyer sur un théâtre d'opération.
Ça avait un effet structurant dans la société.
Alors, attendez. La première des choses, donc, je dis, aujourd'hui, et surtout aujourd'hui, nous avons besoin d'une armée professionnelle, ce qui exclut le service militaire. Deuxièmement, effectivement, service civil, je faisais partie de la commission parlementaire qui a travaillé sur la suppression du service national, et dès cette époque, nous avons dit, il faudrait effectivement un service civil. Avec néanmoins un certain nombre de limites. D'abord, on a un peu idéalisé le creuset qu'aurait représenté le service militaire. Il faut quand même bien voir une chose, c'est que sur plus de 820 000 jeunes que vous avez chaque année, dans chaque génération, vous en aviez à peine 80 000 les dernières années qui faisaient leur service national. Et beaucoup de jeunes, et notamment ceux qui étaient diplômés ou autres, trouver toujours les moyens de ne pas faire ce service national. Donc l'idée de creuser était peut-être un peu idéalisée. Ceci dit, moi j'ai essayé de travailler, y compris en 2005, sur l'idée de dire essayons de faire un service civil qui intéresse tout le monde, qui soit sans doute plus limité dans le temps, mais
qui
à mon avis
serait obligatoire,
pour moi devait être un service effectivement obligatoire si on veut qu'il joue ce rôle de creuser. Mais ça veut dire qu'il faut accueillir 800 000 jeunes dans des associations, et cela a un coût qui fait hésiter beaucoup. Parce que même si c'est pour 3 mois ou pour 6 mois, il faut bien voir que les associations, puisque la plupart du temps ce sont des associations qui vont accueillir et encadrer ces jeunes, demandent à être indemnisées parce que il y a un élément de formation. Et donc c'est un véritable coût pour la nation. Il y a certainement, je dirais, un choix politique qui doit être fait, surtout dans la situation budgétaire actuelle de la France.
Voilà.
Mais c'est un choix.
Avant d'en arriver à cette question particulière du service national ou pas service national, quels sont, selon vous, au terme de ces attentats, les mesures prioritaires à prendre, que ce soit en termes de sécurité, d'éducation et d'économie? Par quoi on commence là tout de suite maintenant, et de quelle manière le fait-on? Est-ce qu'il faut le faire sous l'égide d'un pacte national, avec toujours cette idée d'unité? Vous avez vous-même été reçu place Beauvau, on vous a consulté. Est-ce que ça tient encore la route?
Écoutez, je pense que quand il y a 17 morts, ces morts nous obligent. Et à travers leur diversité, ils représentent aussi, à travers leur diversité professionnel, je veux dire, il représente aussi une certaine idée de la France. Donc, dans une situation comme celle-là, je pense qu'il est de la responsabilité des politiques, quels qu'ils soient, d'essayer effectivement de contribuer à apporter des solutions. Quelles solutions ? Je dirais qu'il y a des solutions à court terme, à moyen terme et à long terme. Il est évident que l'éducation nationale a certainement un rôle important à jouer. Et il est évident que c'est pas en l'espace de quelques mois que l'éducation nationale va réellement avoir un impact. Donc il est important de réfléchir sur ceci. Il est important d'essayer d'avoir les réformes nécessaires. Pour autant, on voit bien que c'est du long terme. De la même façon, il faut savoir que sur le plan international, vous avez un certain nombre de conflits qui, en quelque sorte, servent de prétexte au terrorisme. Et il est évident qu'il va falloir agir sur ce plan international, sur des conflits, qu'il s'agisse de conflits entre États, je pense à Israël et la Palestine, ou qu'il s'agisse de conflits tribaux, voire qu'il s'agisse de conflits d'ordre religieux. Mais il est évident que ça aussi, ce sont des actions qu'il faut faire, et j'en parlais avec la haute représentante de l'Union européenne, et nous en parlions encore aujourd'hui à Bruxelles, dans le cadre de la Commission des Affaires étrangères. Il est évident qu'il faut agir. Nous en parlions aussi avec le secrétaire général de la Ligue arabe cet après-midi. Pour autant, on sait très bien que ça ne va pas se faire du jour au lendemain et qu'on ne va pas protéger les Français ou d'une façon générale les Européens contre le risque terroriste uniquement en travaillant là-dessus. Donc il y a des mesures à plus court terme qui doivent être faites. Les premières mesures sont les mesures qui vont essayer d'empêcher des attentats. Et c'est là où le renseignement joue
un rôle très important.
Le renseignement, c'est d'abord ce qui vous permet en partie d'agir. Je vais vous dire pourquoi en partie. Ça veut dire le renseignement international, européen en premier lieu, mais pas simplement européen, qui doit être renforcé. Ses moyens doivent être renforcés. Le dialogue doit être renforcé. Et de la même façon, un certain nombre de mesures doivent être prises, telles que le PNR, c'est-à-dire la capacité de consultation des fichiers des voyageurs aériens.
La balle est dans le camp de l'Europe.
Et j'ai demandé moi-même la semaine dernière à la session de Strasbourg que effectivement le PNR revienne. J'ai regretté qu'un certain nombre de partis, y compris des partis français qui se prétendent à la pointe de la sécurité et de la défense des Français, aient voté une mesure dilatoire pour que le PNR ne s'applique pas rapidement. C'est là un élément important. Ceci dit, la limite que je voulais signaler, c'est que le renseignement est très utile quand il s'agit de réseaux. Il est beaucoup plus difficile quand il s'agit de personnes isolées. Et cela fait des années, j'étais encore ministre de la Défense, quand j'avais appelé l'attention sur le risque représenté un certain nombre de sites Internet qui sont des sites d'endoctrinement qui peuvent facilement marquer des esprits fragiles. Et quand vous avez sur d'autres sites Internet la façon dont on peut fabriquer une bombe, vous voyez un peu le rapport d'un individu isolé qui est très difficilement repérable et qui va mener une action. Donc le renseignement, c'est quelque chose d'essentiel, tout en sachant une chose, c'est effectivement que vous n'aurez jamais une sécurité à 100% contre le risque d'un individu isolé qui agit. Voilà, si vous voulez, un certain nombre de mesures qui, elles, peuvent être prises très rapidement pour renforcer le renseignement et donc essayer de prévenir.
Est-ce que vous ne pensez pas, bien sûr, il y en a d'autres. Oui. Est-ce que vous ne pensez pas que le renseignement a été affaibli par la nouvelle donne diplomatique, c'est-à-dire que il y a quelques années, c'est vrai que la France ou d'autres pays européens, avec les pays arabes, la Tunisie, l'Égypte, alors bien sûr c'était des dictateurs, mais au moins il y avait des coopérations au niveau du renseignement, y compris avec la Syrie. Aujourd'hui, tout a explosé, les personnalités ont changé. Est-ce que ça a affaibli le renseignement international?
Heureusement, tout n'a pas explosé. Si vous voulez, il peut y avoir
des canaux d'information.
Il peut y avoir un certain nombre de tensions diplomatiques. Ceci dit, les services ont l'habitude de travailler ensemble et heureusement, même quand il y a de fortes tensions, il continue à y avoir des renseignements.
Mais pas avec la Syrie, en tout cas.
Peut-être pas. Non, pas avec la Syrie, effectivement, dont la désorganisation aujourd'hui est totale. Mais vous parliez de l'Égypte, par exemple. Oui, heureusement, on continue. Même le Maroc, il y a de temps en temps des tensions. Pour autant, que c'est effectivement quelque chose d'important. Et c'est d'autant plus important, effectivement, avec les pays dont une partie peut servir de base à un certain nombre de groupes terroristes. Ça, c'est effectivement une réalité. Ensuite, ce qui est important, c'est aussi de mesurer la fiabilité des renseignements qui sont communiqués. Et puis, je dirais, ce qui est très important aussi, on ne le dit pas suffisamment, c'est que souvent, on a beaucoup, beaucoup de renseignements. Le problème, c'est de savoir choisir les bons renseignements, ceux qui vont être réellement utiles, et surtout de les suivre.
Et ça demande
des
moyens.
Parce que regardez ce qui s'est passé, notamment chez nous, les personnes qui ont participé notamment à ces actes terroristes et à ces assassinats étaient signalées. Le problème, c'est ensuite d'avoir les moyens, y compris les moyens matériels et les moyens en personnel, pour suivre ce qu'ils deviennent un peu plus tard.
Justement, les moyens. Un mot là-dessus, oui. Michel Alliomari. On sait l'état à l'os. Où est-ce qu'on va trouver les marges de manœuvre budgétaires, voilà, pour cette lutte contre le terrorisme au sens très large?
Écoutez, l'une des responsabilités majeures des politiques, c'est de faire des choix. Et encore une fois, c'est une question de choix, compris sur le plan financier.
Si vous aviez le choix,
il faut savoir qu'est-ce que l'on fait. Moi, ce que je constate simplement, c'est quand on dit « je fais le choix de l'éducation nationale », on est capable de créer 60 000 postes dans l'éducation nationale.
On renonce aux 60 000 embauches, par exemple.
Je vous dis pas ça. Je dis, dans un certain nombre de cas, vous voyez un gouvernement qui fait un choix et qui trouve les moyens. Mmh. Alors, est-ce que aujourd'hui la priorité, ça n'est pas la sécurité des Français et leur protection contre le terrorisme?
Vous n'avez pas une petite idée sur où on pourrait couper?
Attendez, si nous étions au pouvoir, nous aurions des choix et qui ne seraient sans doute pas les choix du gouvernement actuel. Ça, c'est le débat démocratique. Hein, et il est normal qu'il puisse y avoir des réponses qui sont différentes. Je dis simplement, nous avons aujourd'hui un gouvernement qui fait des choix, qui fait des choix sur la protection sanitaire des étrangers, qui fait des choix, qui trouve l'argent pour ça. Il lui revient de trouver l'argent pour quelque chose qui aujourd'hui est considéré comme prioritaire par les Français.
C'est la fin de cette première partie de Mardi Politique. On se retrouve pour la suite de l'émission juste après les infos.
Mardi Politique, en partenariat avec Libération et France 24.
Véronique Rigolet.
Mardi Politique, deuxième partie, toujours en compagnie de la députée européenne UMP, Michèle Alliot-Marie, ancienne ministre des Affaires étrangères, de la Défense, de la Justice et de l'Intérieur. Pour vous interroger, Alain Auffray de Libération, Roselyne Fèvre de France 24. Alors, dans les leçons à tirer des attentats, Michèle Alliot-Marie, est-ce qu'il faut sérieusement aujourd'hui se poser la question des interventions militaires que la France conduit à l'étranger? On agit dans la bande sahélienne, au Mali, on mène également des frappes en Irak. Autant de guerres menées d'ailleurs contre les islamistes radicaux. Est-ce que cela fait de la France une cible? Et est-ce qu'on doit s'interroger sur la poursuite de ces guerres?
La France serait de toute façon une cible parce que la France incarne au plan international un certain nombre de valeurs qui sont celles de la liberté, qui sont celles de la tolérance, qui sont celles de la démocratie, qui sont celles du respect de l'homme, qui sont celles de l'égalité des hommes et des femmes. Donc de toute façon, c'est ce que détestent le plus les gens qui aujourd'hui se manifestent par le terrorisme. Donc de toute façon, la France serait une cible. Deuxièmement, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on se protège du terrorisme à l'extérieur. Parce que les sources du terrorisme, les lieux d'entraînement du terrorisme sont à l'extérieur. Et c'était déjà le cas avec l'Afghanistan et c'est aujourd'hui le cas avec un certain nombre d'autres pays. Et donc, il est normal que nous y participions. Ensuite, ce que je veux dire, c'est qu'il n'est en revanche pas normal que nous participions seuls sur certaines opérations et que nous prenions seuls l'initiative. Notamment quand il s'agit de l'Afrique. Parce que, soyons conscients d'une chose, la France est toujours vue comme l'ancien colonisateur. Ou du moins, vous avez toujours des gens qui, dans ces pays, soulignent que la France, étant un ancien colonisateur, a sûrement des intérêts. Et cela se retourne contre nous. Et c'est la raison pour laquelle il est très important, et c'est toujours ce que j'ai fait quand j'étais ministre de la Défense, que les opérations soient des opérations européennes. Comment est-ce qu'on fait des opérations européennes? Non pas en y allant et ensuite en se tournant vers les Européens et en leur disant « venez donc nous aider ou venez financer ». Non, c'est dès le départ.
Les pays arabes aussi, vous parlez de la Ligue arabe.
Oui, vous avez tout à fait raison.
Sont des cibles.
Mais ce que je veux dire, c'est qu'il est important, effectivement, dès le départ, de demander aux autres membres de l'Union Européenne d'être
Le Mali, pour la
Centrafrique. Certainement, j'ai eu l'occasion de le dire, je n'y reviendrai pas, mais je l'ai dit très fortement. Et je veux revenir à ce que vous disiez, c'est évident que si on veut être efficace, il est indispensable d'associer aussi des pays arabes de façon, à ne pas rentrer dans la logique qui était celle depuis le début d'Al-Qaïda d'un conflit entre monde occidental et monde arabe. Deuxièmement, parce que ça permet aussi de souligner, grâce aux dirigeants des pays arabes et à leur gouvernement, qu'il y a une différence entre l'islam, je dirais, classique et, d'autre part, les intégristes.
Alain Frey.
Qu'est-ce que vous pensez de l'analyse de votre prédécesseur au Quai d'Orsay, Dominique de Villepin, qui explique qu'en gros, les frappes occidentales, c'est une fabrique de djihadistes. Depuis 2004, à l'intervention à laquelle la France va participer, mais les autres ont continué dans cette logique. C'est en gros la thèse qu'ils défendent, si j'ai bien compris.
C'est beaucoup moins simple que cela. Il est évident que certains ont pu utiliser certaines frappes. Et en ce qui concerne l'Irak, il est évident que ça a mobilisé beaucoup, ça a créé beaucoup de djihadistes. C'est d'ailleurs ce que j'étais allée dire à Washington de la part de Jacques Chirac en leur disant « Attention à ce que vous faites. D'une part, vous allez faire éclater un État qui, par définition, est un État extrêmement complexe avec des sunnites, avec des chiites, avec les tribus, avec les Kurdes. » etc. Et en plus, effectivement, oui. vous risquez de créer cette espèce de...
Mais donc, si l'analyse est juste en 2004, on peut quand même penser qu'elle reste juste aussi quand il s'agissant de la Syrie.
C'est bien la raison pour laquelle il est important que, notamment à Daesh, contre Daesh, vous ayez des pilotes qui viennent des Émirats, qui viennent d'Arabie Saoudite, qui viennent du Qatar, qui participent à ces opérations. Ça aussi, c'est quelque chose que j'ai dit dès le début. Attention à ne pas rentrer dans la logique monde occidental contre monde musulman. Et la meilleure façon de ne pas y rentrer, c'est de voir des pays arabes qui, effectivement, participent à ces actions.
Vous êtes assez d'accord, finalement.
Michel Alliou,
sur certains points, oui. Je dis simplement, c'est peut-être un peu plus complexe qu'il ne le dit, mais c'est vrai que, simplement, dans un article, on n'a pas toujours la place de nuancer sa pensée.
Et Michel Alliou-Marie, vous êtes donc députée européenne, donc vous voyez beaucoup de vos collègues européens. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a une prise de conscience européenne de tous les dirigeants, certains députés, ou vous voyez certains pays qui se sentent intouchables et qui, par conséquent, n'ont pas beaucoup de solidarité
Je dirais que c'est une prise de conscience encore insuffisante. Ça fait des années que je dis que le terrorisme frappera tous les pays, et n'importe où, et à n'importe quel moment.
Et qui se sent intouchable alors ?
Vous avez beaucoup de petits pays, et notamment de pays nordiques, qui ont l'impression que parce qu'on ne parle pas beaucoup d'eux, ils ne sont pas visés. Et que finalement, c'est la France, c'est la Grande-Bretagne, c'est l'Espagne, c'est l'Allemagne qui sont les seuls visés. Et moi, je leur dis, il faut prendre conscience d'une chose. C'est que les terroristes ne visent pas à tuer le plus grand nombre de personnes possible. Ce n'est pas ça leur but. Leur but, c'est de faire parler d'eux. C'est d'utiliser au maximum la communication. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque vous avez un sommet de chef d'État, même dans un tout petit pays, lorsque vous avez un grand événement sportif, lorsque vous avez un événement culturel, dès lors que ça présente un aspect symbolique, qu'il y a beaucoup de caméras, soyons clairs, c'est quelque chose qui les intéresse. Pourquoi ? D'une part, parce que pour eux, c'est une façon de faire peur. Et de ce point de vue, la réaction des Français a été formidable, parce que ça a permis de dire cette immense manifestation, non, nous n'avons pas peur et nous sommes fiers de nos valeurs. Ça, c'est le premier élément. Mais le deuxième élément aussi, c'est qu'en apparaissant fort à travers les médias, ils recrutent des gens qui se disent « Ah ben, nous rejoignons le plus fort ». Et c'est là où je dis aussi, il faut faire extrêmement attention à ce que nous disons nous-mêmes à travers les médias. Et il ne s'agit pas de faire des lois, mais il s'agit que chacun exerce sa responsabilité, parce que c'est vrai qu'ils sont très attentifs. Moi, je m'en suis rendu compte quand j'ai géré des prises d'otages. Et je me suis aperçu que finalement, ces gens étaient d'abord très, très informés de tout ce qui se faisait, de tout ce qui se disait ici. Et à la limite, ils étaient très informés de la façon dont nous pensions.
On évoquait le manque de solidarité européenne. D'aucuns, comme le député UMP Bruno Le Maire, lui met en cause ce qu'il appelle le double jeu. Alors, dit-il, du Qatar, de l'Arabie Saoudite, qui pourrait, entre guillemets, tolérer le financement de réseaux islamistes, ou bien encore de la Turquie, qui est notre allié dans l'OTAN, dans l'Alliance Atlantique, mais qui refuse la lutte contre Daesh, contre l'organisation de l'État islamique. C'est le moment de vous partager déjà accusations, et est-ce que c'est le moment de réviser nos alliances, Michel Alliou-Marie ?
Non, je crois qu'il faut faire très attention à ce que l'on dit. On doit aussi avoir une grande responsabilité. Bon, on peut avoir envie de dire des choses, mais je pense que c'est autre chose. Vous savez, le ministre de l'Intérieur d'Arabie Saoudite a été victime d'un attentat il n'y a pas si longtemps. Et finalement, ces pays sont visés eux-mêmes par le terrorisme. Et c'est la raison pour laquelle aussi nous avons, au niveau de nos services de renseignement, que beaucoup de relations. Alors, ensuite, il y a un autre phénomène qui est celui du financement qui vient de ces pays, mais qui ne vient pas des gouvernements. Depuis 2001, il y a eu mise en place au niveau international des suivis des financements, et on s'est aperçu à ce moment-là un peu de la façon dont les choses se passaient, c'est-à-dire que dans le monde arabe, vous n'avez pas les mêmes systèmes, notamment les mêmes systèmes fiscaux que nous, mais vous avez une obligation, qui est aussi une obligation religieuse, de participer, de donner de l'argent pour un certain nombre d'œuvres sociales, et ceci passe à travers notamment de grandes associations ou de grandes fondations. Et c'est à travers ces fondations que, dans un certain nombre de cas, vous avez des financements qui rejoignent effectivement des
actions. Absolument, il faudrait sans doute un plus gros contrôle sur ces donations. En ce qui concerne la Turquie, là, en revanche, hein, c'est vraiment notre allié dans l'OTAN, et la Turquie refuse vraiment ce combat, ou même toute aide pour lutter contre Daesh. Est-ce que vous le regrettez ?
Oui, je le regrette. Je le regrette. J'ai eu, pas récemment, mais j'ai eu l'occasion de rencontrer M. Erdogan. Mais je ne vais pas dire, là aussi, que c'est tout le pays qui est dans cette attitude, mais je crois qu'il a des préoccupations particulières, notamment en ce qui concerne les Kurdes, et que parfois il fait sans doute passer les intérêts immédiats tels qu'il les conçoit de son gouvernement avant que les logiques qui devraient être celles de la solidarité contre des groupes extrémistes.
Voilà, une dernière question sur les conséquences internationales. On a vu le week-end dernier dans la presse Charlie des violences un peu partout dans le monde musulman, des drapeaux français brûlés, alors au Niger, en Afghanistan, Pakistan, dans le Caucase, et également en Algérie, des manifestations en Somalie, au Yémen. Est-ce purement conjoncturel, ou est-ce qu'on doit faire face là à une vraie crise ?
Je ne crois pas qu'on doit faire face à une vraie crise. Quelle est l'origine de ces manifestations ? C'est essentiellement la nouvelle une de Charlie Hebdo. Je pense que j'ai participé aux manifestations, et encore une fois, je crois que la liberté de la presse, c'est une de nos données fondamentales. Ceci dit, dans le monde actuel et avec les réseaux sociaux, il faut faire aussi très attention aux symboles. Et je pense que nous sommes dans des sociétés où il faut aussi exprimer le respect de l'autre.
Donc, faut la mettre en sourdine ?
Pardon ?
Faut la mettre en sourdine ?
Je vous parle de respect. Je dis pas mettre la liberté de la presse en sourdine, certainement pas. Mais je dis chacun.
Non, mais sur les caricatures.
Chacun, lorsqu'il s'exprime, doit avoir aussi cette idée du respect dû à l'autre.
Mais est-ce que vous pensez, pardon, c'est important, qu'il faut cesser de faire des dessins sur le prophète ?
Je pense qu'il faut, encore une fois, c'est le choix des journalistes. Je dis faisons attention, parce que qu'il s'agisse du prophète ou qu'il s'agisse d'autres religions. Vous savez, vous avez des gens, quelles que soient les religions, qui ont le sentiment d'être profondément blessés dans leurs convictions. Quand, au-delà de la caricature, parce que la caricature, ça fait partie aussi de notre culture, mais quand on va au-delà, et quand au-delà de la caricature, il y a derrière une idée qui est une idée portant atteinte aux croyances profondes de l'autre. Nous sommes dans un monde très complexe. Je pense qu'il faut vivre à travers la diversité, et que c'est important, et que cela implique aussi, de la part de chacun, quand il commet, quand il fait un acte, quel qu'il soit, de parole ou d'écrit, de réfléchir à la réaction qui peut être celle de l'autre.
Ça, c'est ça le respect des âmes. Adressé à Charlie Hebdo ?
C'est un message qui est adressé à chacune et à chacun. À chacune et à chacun, et à moi aussi. Parce que de temps en temps, j'ai aussi envie de dire des choses.
Et vous retenez.
Et je pense, oui, je pense ne pas blesser l'autre. C'est quelque chose d'important quand on doit vivre ensemble.
On revient à la politique française. On dit que le premier test de l'année, après ces attentats, ce sera avant les départementales fin mars, la fameuse partielle dans le Doubs, pour remplacer le socialiste Pierre Moscovici, qui est donc parti à Bruxelles. Tous les chefs de parti vont faire le déplacement, hein, Manuel Valls, la semaine prochaine, Marine Le Pen, dès ce vendredi, Laurent Wauquiez, le secrétaire général de l'UMP, va également se rendre sur place la semaine prochaine. C'est vous dire si l'affaire est d'importance et que cette partielle est disputée. Normalement, la candidate FN fait en tout cas la course en tête pour le premier tour. L'UMP devrait gagner, en tout cas favori pour le second. Mais est-ce que ces attentats peuvent changer la donne, d'où ce déploiement politique dans le Doubs ? Est-ce que, à votre sens, ces attentats peuvent avoir un impact ou non sur la vie politique française, en tout cas sur ce premier test électoral, en regonflant, et pourquoi pas, comme le craignent certains, le Front National ?
Alors, ne confondons pas un test électoral et la vie politique française. Je pense que c'est la première des choses. Effectivement, il s'est passé quelque chose. Et le fait que les Français se retrouvent ensemble pour défendre un certain nombre de valeurs, cela leur a montré aussi que finalement, ils se retrouvaient et qu'il y avait des choses qui les réunissaient au-delà de ce qui les sépare. Mais il est évident aussi que ce n'est pas parce qu'on partage les mêmes valeurs que tout le monde va dire exactement la même chose. Où serait la démocratie s'il n'y avait pas des points de vue différents? Et à ce moment-là, on retombe effectivement dans ce qu'est le débat démocratique à l'Assemblée nationale, le débat électoral avec l'élection qui aura lieu.
Vous avez entendu comme moi le président du Sénat, Gérard Larcher, dire voilà, qu'au terme de cette douloureuse séquence, eh bien, la donne avait changé, que dorénavant on pourra dire eh bien, que Marine Le Pen ne sera peut-être pas au second tour de la présidentielle, parce que tout le monde escomptait plus ou moins. Est-ce que vous avez le même sentiment?
Écoutez, ne parlons pas de la présidentielle 2 ans avant. Je n'en sais rigoureusement rien. Nous ne savons pas ce que sera la situation. Simplement, comme je vous le disais tout à l'heure, si cette période et si ceux qui sont morts nous ont laissé au moins l'idée que nous avons envie de partager un destin commun qui est celui de la France et que cela implique aussi que nous sachions nous respecter les uns et les autres, que nous ayons le sentiment de notre propre responsabilité individuelle dans la construction de la France, je pense effectivement que nous serions dignes de ce qui s'est passé.
Alain Onfray, pour la dernière question.
Vous avez parlé tout à l'heure du rassemblement du 11 janvier et de cette ambiance d'union nationale. Est-ce que votre avis, il doit en rester quelque chose, notamment est-ce que ça doit se faire sentir dans les débats à venir sur des questions qui n'ont rien à voir alors pour le coup avec le terrorisme, mais par exemple la loi Macron, etc. Est-ce que vous pensez que il y a une manière d'exprimer les clivages politiques qui doit évoluer en France?
Je pense que la démocratie implique le débat. Et il est évident que nous n'avons pas tous les mêmes réponses à apporter sur un certain nombre de sujets. Ce que je souhaite simplement, c'est que cela soit exprimé avec une certaine dignité, peut-être avec une certaine retenue, avec un certain respect de l'autre. Je pense que c'est ça aussi qu'attendent les Français.
Ce que je voulais dire, c'est qu'on pouvait voter contre la loi Macron pour des raisons politiciennes.
On peut voter pour des tas de raisons contre la loi Macron, et je pense pas simplement pour des raisons politiciennes.
Voilà, c'est la fin de Mardi Politique, réalisée par Mathias Golshani. Merci Michel Alliomarie d'être passé à RFI. Merci à nos partenaires France 24, Libération, Rosine Fèvre et Alain Onfray. Et rendez-vous à tous la semaine prochaine.
Il va y avoir un peu de musique.
Vous y croyez vraiment, vous, à la survie de cette unité nationale qu'on a vu se manifester ces derniers jours, Michel Alliomarie?
Je pense que les gens en avaient vraiment besoin. Moi, c'est ce qui me frappait. Les gens se sentaient seuls, isolés. Et finalement, dans cette grande manifestation, les gens étaient heureux, malgré la tristesse, parce qu'ils étaient ensemble.
Mais ça ne va pas être un piège, maintenant, cette unité nationale pour l'UMP? Est-ce qu'il ne va pas se sentir, du coup, un peu, on va dire, tétanisé? Est-ce que la politique va reprendre ses droits?
Non, encore une fois, il n'y a pas de démocratie s'il n'y a pas de débat d'idées. Et il y a des idées qui peuvent se justifier en fonction de l'idéologie des autres. Bien sûr que l'unité nationale a besoin du débat. Mais simplement, ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons des valeurs communes et que ces valeurs, on n'y porte pas atteinte. Et que d'autre part, nous avons l'idée que nous formons un tout.
Alain Onfray.
Est-ce que cette renaissance de François Hollande dont on parlait tout à l'heure, ça remet pas en cause la stratégie de Nicolas Sarkozy qui était d'apparaître et de s'imposer dans le paysage politique français comme l'homme providentiel?
Mais je ne crois pas que ça se soit à la hauteur du débat aujourd'hui. Sur quoi les Français vont juger? Ils vont juger d'abord sur les propositions qui seront faites sur les uns et les autres. Et moi, je peux vous assurer que c'est ça. Aujourd'hui, les Français n'ont pas envie d'entendre parler d'ambition, de carrière personnelle ou de choses comme ça. Ils veulent savoir, parce qu'ils ont beaucoup de difficultés aussi dans leur vie quotidienne, quelles perspectives on leur donne sur le plan des valeurs. On en parlait tout à l'heure, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan du développement de la France. Ils savent que la France a des atouts, ils ont envie de voir ce que proposent les uns et les autres pour que ces atouts soient mis en œuvre et que finalement, ce soit eux, Français, qui en bénéficient.
François Hollande a pris 21 points lors de cette affaire. C'était un peu la rencontre du politique et de l'empathie. Et Nicolas Sarkozy a été un peu moqué sur les réseaux sociaux parce qu'il a essayé de se mettre un petit peu en avant. Est-ce que vous pensez que pour lui, c'est un moment difficile?
Écoutez, je n'ai pas l'impression qu'il ait voulu se mettre en avant. Faisons attention aux réseaux sociaux. Moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est les messages de haine. Je ne parle pas de Nicolas Sarkozy, là, mais d'une façon générale, qui passent par Twitter. Ce sont un certain nombre de messages qui passent par les réseaux sociaux et qui, pour le coup, mettent en cause cette volonté de cohésion qu'attendent les Français.
Voilà, cette fois, c'est la fin de Mardi Politique réalisée par Mathias Golshani. Merci Michel Alliomarie d'être passé à RFI. Merci à nos partenaires France 24 Libération, Roselyne Fèvre et Alain Auffray. Et rendez-vous à tous la semaine prochaine.
Cette fois-ci.